Soyez les bienvenus. C'est l'heure de retrouver Alain Jeanne pour votre émission Chut, on écoute la télé, le talk show radio en podcast maintenant sur onécoutelatélé.com. Chut, on écoute la télé avec votre biscuiterie Les Caprices de Thérèse. Des biscuits fabriqués à Blanzac en Haute-Vienne avec un savoir-faire artisanal et un goût authentique. Découvrez toutes nos recettes en grande surface, Les Caprices de Thérèse. Dégustez l'excellence. Chut, on écoute la télé avec votre agence de voyage Les Ailes du Partage. Amandine, votre interlocutrice privilégiée, vous proposera voyage à la carte et sur mesure, adapté à votre budget dans le monde entier. Passez du rêve à la réalité en réservant votre prochain voyage au 06 72 32 47 67 et sur voyage-solidaire.com.
Succomber au plaisir d'un dessert Marie Morin en écoutant Chut, on écoute la télé. Marie Morin, une entreprise familiale, un goût inimitable. Retrouvez la fameuse mousse au chocolat à l'ancienne et vos recettes sans colorant, sans conservateur et vos points de vente près de chez vous sur marie-morin.fr.
Retrouvez toute l'actualité de votre émission en vous connectant sur notre site onécoutelatélé.com ou sur notre page Facebook Chut, on écoute la télé.
Bonjour à tous et très bon début de semaine. Ravi de vous retrouver sur notre site onécoutelatélé.com pour Chut, on écoute la télé, le podcast. Tous les lundis à 20h, eh bien, nous vous donnons rendez-vous justement pour ce podcast avec tous nos invités où pendant une heure, nous allons vous accompagner pour passer en revue l'actualité culturelle de la semaine avec tous nos invités. Alors, vous savez pas? Eh bien, on va faire tout de suite le sommaire. Eh bien, oui, c'est parti.
Chut, on écoute la télé.
Le talk show radio.
Et au menu de ce nouveau numéro de Chut, on écoute la télé aujourd'hui, deux coups de cœur ciné, le premier consacré au film Everybody Loves Touda qui sort mercredi dans les salles. Le réalisateur marocain Nabil Ayouch sera notre invité exceptionnel, accompagné de Nisrine Eradi qui sera également avec nous. Et puis deuxième coup de cœur ciné en fin d'émission, Guillaume Niclou pour Sarah Bernard, La Divine, qui sort également mercredi au cinéma. Nos coups de cœur télé aujourd'hui consacrés évidemment à Fais pas ci, fais pas ça. Bruno Salomon viendra tout nous dire sur ce voyage sur la Lune. Clémentine Poidatz à l'affiche de Hors Limite, troisième opus de cette collection initiée où elle partage l'affiche avec Laurent Gérard. Clémentine sera également avec nous. Et puis spécial Père Noël à domicile, la fiction événement d'M6 qui sera diffusée demain soir à cette occasion. Le réalisateur Manu Joucla sera là avec toute une partie de son casting. Mehdi Sadoun, Louise Monod, Charlie Bousquet, Ambroise Michel et François Burlou vont venir nous rendre visite. Vous l'avez compris, on va pas s'ennuyer aujourd'hui dans Chut, on écoute la télé. À tout de suite.
Le coup de cœur ciné de la semaine.
Allez, notre coup de cœur cinéma cette semaine est consacré à Everybody Loves Touda qui sort mercredi dans les salles. On a le grand plaisir de recevoir Nabil Ayouch qui est avec nous aujourd'hui pour en parler. Bonjour Nabil.
Bonjour.
Merci d'être avec nous et on a également Nisrine Eradi qui est l'héroïne de ce film. Bonjour Nisrine.
Bonjour.
Merci d'être là tous les deux. C'est la première fois qu'on a un film, un coup de cœur d'un film marocain, franco-marocain, tourné au Maroc, dans des paysages absolument sublimes. Et puis en plus avoir un réalisateur marocain de cette trempe, Nabil, j'avoue ma petite fierté aujourd'hui de pouvoir parler de ce cinéma aujourd'hui qui est en plein essor, je crois.
Oui, c'est vrai que depuis une vingtaine d'années, le cinéma marocain a d'abord commencé par rencontrer son public là-bas, sur place au Maroc, et puis à s'exporter et à être vu de plus en plus dans des grands festivals, dans les grands circuits de salles. Et il y a une jeune génération de cinéastes qui pousse, il y a de plus en plus de femmes qui passent derrière la caméra. On peut parler de vraies dynamiques dans le cinéma marocain là ces dernières années, oui.
Alors, ce film raconte l'histoire de Touda, qui est une jeune femme qui a des envies, qui veut aller à la ville, Casablanca, qui vit un peu à la campagne, justement. Et moi, j'aimerais qu'on explique déjà ce qu'est qu'une chirat, Nabil.
Les chirats, c'est poétesses, en fait, des temps anciens qui ont commencé à apparaître au XIVe siècle, puis après qui ont disparu pendant quasiment 500 ans, pour revenir au XIXe siècle avec une poésie chantée, qui s'écrivait à plusieurs mains puisque elle passait de village en village. Les strophes et la poésie se développaient chaque fois sous forme d'écriture collective et elle chantait l'amour. Elle chantait le corps, elle chantait le désir, à une époque où les femmes n'avaient pas le droit de chanter en public. Donc elles ont conquis ce droit de chanter en public Et elles ont été de toutes les luttes à travers l'histoire du Maroc. Toutes les résistances sont devenues des héroïnes. Et puis, malheureusement, quand elles ont quitté leurs montagnes et leurs campagnes respectives pour aller dans les grandes villes, pour chanter dans les clubs, les boîtes de nuit, les bars et autres, les lieux d'alcool, les lieux où l'argent circule à flot, comme on le voit dans le film, eh ben, leur image s'est complètement pervertie auprès du public, qui les a plus regardées comme des objets de désir et des prostituées que comme des artistes. Parce qu'aujourd'hui, pour 80% de la population au Maroc, le mot chicha est très très mal vu. Et j'ai voulu, à travers ce film, redonner leur lettre de noblesse à ces chichas, les réhabiliter et dire que, avant tout, il ne faut pas l'oublier, ce sont des résistantes, des héroïnes, et ce sont des artistes, surtout.
Une héroïne que joue Nisrin. Juste un petit mot sur le chant populaire, on appelle ça l'haïta ?
Oui, l'haïta qui, littéralement en arabe, veut dire le cri. Parce que l'art de l'haïta est né dans les plaines de Safi, mais après ça s'est réparti sur tout le territoire marocain. Et vous savez que le Maroc, c'est un pays essentiellement de montagnes.
L'Atlas,
70% du territoire, c'est des montagnes. À l'époque des grandes luttes et des grandes résistances, ces chichates, elles envoyaient des chants de montagne en montagne. Et on entendait des longs chants extrêmement puissants qui s'élevaient d'une montagne et avec l'écho se réverbéraient pour aller vers une autre montagne. Voilà, et littéralement, ce mot haïta veut dire cri.
Ce film est un vrai parcours, le parcours de cette femme de Touda. Nisrin, qu'est-ce qui vous a plu en premier dans ce portrait de femme que vous proposez, Nabil ?
D'abord, moi, je rêvais toujours d'interpréter un personnage de Chira. Et puis, avec Nabil, c'était un rêve accompli. Donc, dès la première lecture du scénario, j'ai senti directement que ce personnage va être différent des autres personnages que j'ai interprétés avant. J'ai commencé les préparations avec Nabil et on a resté sur les préparations un an et demi de travail. J'avais des cours de chant et de danse et de percussion. J'avais des chichats qui restent vraiment à côté de moi. Même chez moi à la maison, je les accompagne dans les bars où ils chantent. Donc j'avais vraiment un travail énorme à faire pour interpréter ce personnage.
Touda, ce qu'elle veut avant tout, c'est offrir aussi une meilleure vie à son fils, Sorémué, qu'on découvre avec lequel elle communique beaucoup. Et elle n'a une seule obsession, c'est lui offrir une plus belle vie et donc souhaite aller s'établir à Casablanca. Mais ça va pas être de tout repos tout ça. Hein.
Non, la vérité, Touda, son rêve, c'est son fils, c'est de gérer sa vie et de l'amener à une autre ville que le patelin qu'il a déjà vécu toute sa vie là-bas. Mais il a senti que son fils a besoin d'elle, a besoin de sa voix pour partir loin et chercher l'amour qu'il mérite.
Mais on sent qu'ils ont besoin l'un de l'autre. Elle aussi a besoin de lui, comme lui a besoin d'elle. On sent vraiment cette alchimie entre ces deux êtres.
Oui, et c'est l'amour, le vrai amour pour Touda, c'est son fils. Il est dans cette vie que pour son fils, donc c'est ça.
Très beau film en tout cas, Nabil, qui transpire l'amour, la difficulté aussi, des fois aussi les barrières que peuvent provoquer diverses choses. Et on va écouter d'abord la bande-annonce. Everybody Loves Touda, ça sort mercredi dans les salles. On revient juste après avec vous deux. À tout de suite.
سي رابع عمر الستيرنا ديالو
انا ماشي قحبه كنغني
Voilà, c'est notre coup de cœur ciné, Everybody Loves Touda. Ça sort mercredi dans les salles. Nouveau film de Nabil Ayouch. Nabil, est-ce que c'était compliqué de monter ce film, justement, puisque les chirates, comme tu dis, elles sont pas bien vues forcément là-bas encore. C'est encore le cas aujourd'hui?
Oui, aujourd'hui, c'est encore le cas. Elles ont encore une image assez négative auprès de la population. C'est en train de changer.
Les mentalités évoluent quand même un peu là-bas aussi.
Elles évoluent lentement. Elles ont besoin, pour évoluer, d'avoir des représentations différentes de ces femmes que l'inconscient populaire. Et ces représentations différentes, on les trouve essentiellement au cinéma. Et c'est pour ça que j'espère que le film va pouvoir permettre de faire bouger les consciences et de regarder ces chichates différemment. C'est vraiment un des objectifs pour moi parce que elles sont pas dans ce film par hasard. C'est-à-dire qu'elles peuplent mes films depuis un certain temps déjà. On en a vu un personnage de chicha dans Les Chevaux de Dieu, dans Razia aussi. Mais là, j'avais vraiment envie d'en faire l'héroïne centrale et principale de mon film. Là où j'ai toujours fait des films chorales jusqu'à présent, c'est le premier film où il y a un personnage principal, en l'occurrence Touda, qui est vraiment au cœur même de l'histoire pour aller chercher ce Graal et aller chercher cette réhabilitation. Je crois qu'il est vraiment temps de changer les mentalités. Et c'est pour ça que Nisrine a fait un travail extraordinaire en tant qu'actrice pour ce rôle. Elle a bossé avec des vrais chichat pendant un an et demi. Elle a bossé sur le chant, elle a bossé sur la danse, sur la manière de parler, de bouger pour être complètement crédible. Et que quand on la voit à l'image, on voit une vraie chichat. Pour les gens qui connaissent un petit peu cet art, c'est assez troublant.
Une vraie lumière en même temps, qui est aussi belle que celle du Maroc, que ce personnage amène Nisrine, qui Touda vit quelque chose dès le début du film qu'on va pas dévoiler, hein, parce que comme ça on va pas déflorer, mais quelque chose de très difficile. On a l'impression que ça a amené peut-être dans le personnage une certaine rébellion peut-être, et encore plus de hargne pour conquérir sa liberté.
Oui, c'est vrai, Touda a vécu des choses difficiles dès la première scène du film, et puis de cette scène, moi j'ai commencé le travail profond de ce personnage, parce que on peut pas parler de la scène, mais ce qui s'est passé pour Touda du début de film est très malheureux. Tu peux pas passer
quelque chose qui va la changer à jamais, on a l'impression.
Exactement. Donc c'est ça qui l'a donné la force pour continuer à rêver dans le film. Et vraiment rêver.
C'est ça qui lui a donné, en fait, ce que dit Nisrine, c'est de se défendre, d'aller chercher ce qu'elle va chercher et d'affronter le reste du monde. Parce que finalement, c'est ça qu'elle fait dans le film, c'est se confronter à toutes sortes d'adversités.
Est-ce qu'il y a une scène qui a été particulièrement difficile à appréhender?
Oui,
et à jouer?
Oui, la scène finale du film était compliquée à tous les niveaux avec toute l'équipe. Moi, Nabil, l'équipe technique, la figuration, c'était énorme comme scène. On l'a répété pas mal de fois pendant toute la nuit. Et puis, vraiment, j'ai senti des trucs un peu forts dans cette scène. Ouais, on cherchait un truc précis. Au final, Nabil a trouvé ce qu'il voulait dans la scène.
C'était la dernière scène du film, la dernière tournée ou pas pour le coup?
Alors c'est la dernière scène du film et c'est la dernière prise qu'on a tournée, parce que c'est une scène, une complexité monumentale, comme disait Nisrine. C'est un plan séquence de quasi 8 minutes, mais c'est surtout que c'est un plan séquence qui nous amène à traverser un hall d'hôtel, à monter 37 étages, à arriver en haut de cet escalier ensuite lumineux, et puis cette performance incroyable de Nisrine sur la scène, et puis ensuite à refaire le chemin en sens inverse. Ça relève presque du miracle, parce qu'on l'a répété pendant 3 mois sur place, mais sur une scène de théâtre aussi, avec Nisrine, avec tous les rôles secondaires de la scène. Mais une fois qu'on est sur place et qu'il y a 200 personnes qui nous attendent et qu'on se rend compte de la complexité de la chose, on a du mal à se dire qu'on va y arriver. Et puis à 6 heures du matin, là, je crois que c'était la 14e prise.
Le miracle arrive.
Eh ben oui. La pluie d'abord, la pluie. Et puis ensuite, la pluie qui est bienfaitrice pour nous au Maroc. Et puis derrière, le miracle. Parce que, vous savez, c'est ça le cinéma, c'est quand à un moment, tout concorde. Tout se rencontre.
Exactement, que les planètes s'alignent. Nabil, il y a à la fois quelque chose de très féministe dans ce film. C'est un film de femme réalisé par un homme. Donc effectivement, il y a vraiment quelque chose de très féministe dans ce film.
Il y a quelque chose qui est de l'ordre de la résistance, de la revendication de ce personnage, de cette femme qui fait face à des préjugés, à des idées reçues, à une image qu'on a envie de lui coller, et qui en fait refuse ce déterminisme, refuse ce destin, et qui a envie d'aller chercher un autre destin. Et cet autre destin, elle veut aller chercher à la fois pour elle, parce qu'elle a envie de s'élever socialement, et artistiquement, et pour son gamin. Ce combat de femme, oui, il est au cœur même de la matrice du film, et c'est probablement ça aussi qui guide toutes les étapes de la vie de cette femme pendant un an qu'on traverse avec elle, au même titre que les saisons, parce que le film est aussi rythmé par les saisons et la nature, son rapport à la nature qui est très beau.
Le film sort dans beaucoup de pays.
Oui, il sort dans pas mal de pays à partir de là maintenant.
Ben, Touda s'apprête à conquérir le monde, on peut le dire, je crois. Everybody Loves Touda, ça sort mercredi dans les salles. Merci Nabil, merci Nisrine d'avoir été avec nous. C'est le film lumineux de cette fin d'année à ne pas rater. Merci à tous les deux.
Merci à vous.
Merci.
Allez, dans quelques instants, la suite de Chut, on écoute la télé avec nos coups de cœur télé. Bruno Salomon, Clémentine Poidas, l'équipe de Père Noël à domicile et Guillaume Niclou en fin d'émission nous rejoignent. Alors ne bougez pas.
Bouge pas, bouge pas. Chut, on écoute la télé, revient dans un instant. A tout de suite. Retrouvez toute l'actualité de votre émission en vous connectant sur notre site onécoutelatélé.com ou sur notre page Facebook Chut, on écoute la télé.
Jamais qu'on valide ce qu'elle fait. Elle change les codes, elle fait ce qui lui plaît. Son propre repère, elle n'a besoin de personne. Elle ne veut pas qu'on l'aide,
pas qu'on l'aide.
C'est sa manière d'être. Je crois que l'on s'accorde.
J'aime qu'elle ait le premier rôle. La façon qu'elle a d'être entière sans éteindre les autres. C'est beau d'aimer quand nos corps se frôlent. La raison nous emporte ailleurs et on lâche le contrôle.
Jamais j'abandonne, je fais ce qui me plaît. Avec elle, je sais que ça fonctionne.
Elle est différente, différente.
Et si on s'entend, c'est que jamais on ne s'emprisonne.
J'aime qu'elle ait le premier rôle. La façon qu'elle a entière sans éteindre les autres. C'est beau rêver quand nos corps se frôlent. La raison nous emporte ailleurs et on lâche le contrôle.
Rendez-vous des stars, c'est Chut, on écoute la télé, votre talk show radio. Nos coups de cœur télé cette semaine.
Allez, notre coup de cœur télé consacré à Hors Limite qui sera diffusé ce soir sur France 2 avec Laurent Gérard et Clémentine Poidatz qui nous rejoint justement pour en parler. C'est un petit rendez-vous annuel maintenant qu'on se donne. Clémentine, merci d'être là.
Merci de me recevoir.
Constance Vivier is back pour la troisième fois, troisième opus. C'est un succès à chaque diffusion, plus de 5 millions de téléspectateurs. C'est une collection qui est en train de s'ancrer, de s'installer sur la durée. C'est une bonne nouvelle.
Ah oui, oui, c'est une très bonne nouvelle parce que au tout début, ça devait être juste un téléfilm Noir comme neige, le tout premier qu'on avait tourné en 2020. Et puis c'est vrai que ça a fait un succès. Là où c'est une très bonne nouvelle aussi, c'est que quand on a le temps de développer des personnages, forcément c'est extrêmement précieux, c'est assez rare d'avoir tourné le troisième opus et possiblement de tourner un quatrième opus. Je veux dire que c'est très excitant. J'ai assez hâte de retrouver la neige aussi, peut-être au mois de janvier.
Alors oui, parce qu'il faut dire quand même que les conditions de tournage sont souvent rudes. Hein. Les autres années, tu nous as confié effectivement que des fois tu en as quand même sacrement bavé. Là, c'est une nouvelle enquête qui attend Andreas Meyer et Constance Vivier.
Oui, tout à fait. Et là, cette année, dans Hors Limites, il y a encore plus de cascades, encore plus de prises de risques, beaucoup, beaucoup de neige. Alors, moi, j'aime bien les tournages qui sont un peu difficiles parce que c'est ce que j'appelle des tournages aventures. On est tous obligés de se serrer les coudes pour arriver au bout de la journée. Et là, dans ce nouvel opus, on a Caterina Moreno aussi.
Elle va jouer une méchante, mais... Alors franchement, je sais qu'elle prend un plaisir dingue justement à jouer ce genre de rôle.
Ouais, et elle est elle est très impressionnante. Il y a également Stéphane Debac qui est formidable, qui est dans ce troisième opus et qui est assez implacable dans le personnage qu'il a dessiné.
Alors dans cette enquête, on va retrouver un copain de fac d'Andreas qui va venir débarquer justement dans votre petite station. Il va pas faire long feu. En quelque sorte, on va s'apercevoir qu'il y a toute une enquête qui va venir se mener sous fond d'entreprise aussi dans ce nouvel opus.
Oui, tout à fait. Donc c'est le point de départ. C'est Andreas qui doit retrouver un ancien copain de fac qui est également un ami de Francesca, qui est donc interprétée par Caterina. Ça se passe, comme tu le disais, dans l'entreprise. C'est des séminaires d'entreprise et on va découvrir petit à petit pourquoi ce copain de fac est décédé. Et j'en dis pas plus parce que sinon je vais tout spoiler.
Ah bah oui, sinon on va raconter tout le film et puis on va vous laisser évidemment vous délecter de cette histoire.
Alors juste pour dire, le décès de ce copain de fac arrive très très vite, donc on spoile pas grand chose, on met juste un cadre, voilà.
Voilà, exactement, c'est vraiment la base de départ et on va se rendre compte qu'il s'est passé des choses dans le passé qui vont venir ressurgir au fur et à mesure de toute cette histoire bien ficelée. C'est aussi ça, c'est le fait d'en faire qu'un par an. Il y a le temps de travailler correctement le scénario, de travailler correctement effectivement le rôle. Est-ce que toi, mine de rien, Clémentine, tu as aussi la possibilité de venir mettre ta petite patte, de venir donner quelques petites suggestions quand tu vois ce qui est écrit pour ton personnage?
Oui, oui, ça c'est une chance aussi. Voilà, quand on travaille sur une collection avec les mêmes auteurs, là on va changer de réalisateur. C'est le premier assistant qui devient réalisateur pour le quatrième opus. On est comme une petite famille et ça c'est assez excitant parce que effectivement on a le... Par exemple, alors moi, je me permettrais pas de bouger des choses de trame scénaristique, mais sur les dialogues ou sur, avec Laurent, on s'amuse beaucoup à ça parce que maintenant, on se connaît, nous, dans la vie de mieux en mieux. Et nos personnages, on arrive de mieux en mieux aussi à les dessiner et à voir là où ça frotte entre nous et là où, voilà, on se chamaille un petit peu. C'est un petit peu, on garde quand même ce rapport chat-chien qu'on a instauré dès le départ.
Et qui fait le sel de la série.
Oui, complètement, qui fait le sel de la série.
Et qui fait pas fond de la neige, celui-là.
Non. Pour moi, c'est une expérience assez géniale. Et de continuer à découvrir des choses. C'est-à-dire que là, j'ai dû apprendre à faire du ski. Je ne sais pas ce qui est. Voilà, voilà, je viens de la mer, donc je connaissais pas du tout la montagne. Pareil pour j'ai une descente en rappel sur une cascade de glace.
Parce que toi, t'es bretonne, hein?
Ouais, c'est ça, je suis bretonne. Et donc, la descente en rappel sur la cascade de glace, comment dire? C'était quand même très, très, très impressionnant. Et c'est étonnant parce que c'est des choses que je ferais jamais dans la vie, même si je me suis mise à l'escalade pour le rôle. Mais le fait que ça soit dans le cadre d'un tournage, je pense que ça me donne beaucoup plus de courage de le faire pour mon métier que pour moi. Je me serais jamais aventurée à descendre, je sais pas de quelle hauteur, d'une cascade de glace, mais jamais. Ça fait un bruit horrible, en fait. Dès qu'on met les crampons dedans, ça brise un peu la glace. C'est assez impressionnant. Mais tout ça, en fait, vient servir, en tout cas, moi, ça vient vraiment servir mon personnage. Et c'est comme une famille, on évolue. Même le fait que Pierre-Louis Pingot, qui était notre premier assistant, devienne réalisateur, je trouve ça chouette aussi de faire évoluer les personnes de l'équipe aussi à des postes. Voilà, on grandit tous et toutes dans cette famille. Et j'espère qu'on va pouvoir continuer longtemps. Enfin, il y a un moment, peut-être que je serai trop vieille pour descendre, ils me remplaceront, mais...
T'as quelques épisodes encore à venir, t'inquiète pas.
j'espère, ouais.
En tout cas, donner la réplique à Laurent Gérard, ça doit être aussi chouette d'avoir un comédien qui est aguerri à la scène et qui peut des fois proposer des choses qui peuvent surprendre son partenaire. C'est arrivé de ton côté avec lui?
Oui, parce qu'il est, c'est quelqu'un qui jouait en fait, c'est comme jouer au ping-pong, faut envoyer à la balle, faut surprendre. Et c'est vrai que Laurent, il a cette agilité-là. Et en plus de ça, c'est quelqu'un qui a très peu confiance en lui en tant qu'acteur. Moi, ça m'avait émue la première fois qu'on s'est rencontrés, parce qu'il me disait je sais pas faire.
C'est quelqu'un qui est très timide en plus dans la vraie vie qu'on connaît. Franchement, il est extraordinaire là-dessus.
Ouais, ouais. Et puis c'est quelqu'un avec une grande humanité. C'est comme un grand frère. Je l'adore. Il y a plein de trucs sur lesquels on se chamaille vraiment, comme dans notre relation. C'est assez drôle d'ailleurs. Hein. Je pense que les scénaristes s'en servent. C'est quelqu'un qui est très étonnant. Et d'ailleurs, il y a quelques mois, il était dans un téléfilm qui s'appelait Un père idéal, réalisé par Hélène Filière, dans lequel il est impeccable et très très loin de ce qu'on peut imaginer de lui.
Avec Eddie Mitchell.
Ah oui, oui, c'était... Et moi, il y a eu des moments où il me bouleversait, alors que je le connais bien, donc c'est toujours plus difficile de voir ses copains comédiens interpréter des rôles parce qu'on les connaît tellement dans la vie que... Et Laurent, il a cette chose-là qui est très étonnante de réussir aussi à aller dans le sombre. Ses émotions, on les lit comme un livre ouvert et il est très très généreux sans jamais imposer quelque chose. Il a vraiment une grande délicatesse des grands acteurs, je trouve.
Clémentine, alors, si ce troisième opus arrive ce soir sur France 2, le quatrième va arriver en tournage, mais pour 2025, il va y avoir aussi un beau projet, une amitié dangereuse, une mini-série d'Alain Tasma dont on parlera évidemment très longuement, une fiction en costume où tu joues une marquise.
Non, je joue une princesse.
Une princesse, pardon. Oh là, je me suis trompée de titre. Où tu joues une princesse, excusez-moi.
Oui, Louise de Conti, c'était une très belle expérience également. On a tourné en costume 17e, hein. On a commencé à tourner au mois d'août, on crevait de chaud. C'est-à-dire qu'il y avait des gens qui vont tomber dans les pommes, on avait du mal à... C'était génial. Et puis, le casting principal est fait d'acteurs et d'actrices très très jeunes. Il y a Jérémy Gillet, Stéphanie Gilles, qui est une actrice espagnole qui joue Anne d'Autriche, et Kelly Despaux.
Québécoise, qui est extraordinaire aussi.
Elle est absolument formidable. C'est une actrice qui a eu beaucoup, beaucoup de prix au Canada et qui s'est emparée du rôle... de manière incroyable, et ils avaient vraiment les âges des personnages. En fait, on rentre vraiment en intimité avec la grande histoire par leurs histoires personnelles, et c'est d'une violence cette époque qu'on a tendance à oublier, et Alain Tasma ne voulait pas qu'on joue le 17e, en fait. C'est les mêmes problématiques qu'on rencontre aujourd'hui, même s'il n'y a plus cette même politique et qu'il n'y a pas tout ce décorum. Il voulait vraiment qu'on ramène les personnages à nous, c'était hyper important pour lui.
Et il donne quelque chose de très contemporain finalement.
Oui, de très contemporain, avec malgré tout un parler 17e. Il était là, le défi, c'était de ne pas jouer l'idée du 17e et de ne pas jouer l'idée d'un personnage, mais de vraiment incarner. Et Alain, il est connu aussi pour être exigeant avec la technique et les acteurs et les actrices. C'est des projets sur lesquels on apprend aussi énormément. Et je dois dire que tout le monde a fait un travail magnifique. Notre chef opératrice, qui s'appelle Virginie Saint-Martin, est incroyable, des lumières incroyables. Pourtant, on n'avait pas plus de moyens, pas du tout. Et le résultat est vraiment... j'en suis très fière, alors que j'ai un second rôle. C'est bien aussi que France Télévisions continue à... Parce que on apprend l'histoire, on apprend, et moi c'est une série aussi qui m'a touchée vraiment au cœur au niveau de... C'est une série qui est assez féministe et sur la place des femmes, et sur les femmes qui décident de prendre aussi un pouvoir qu'on ne leur avait jamais donné. C'est hyper important parce que c'est comme ce que tu disais, c'est qu'il y a quand même une grande modernité grâce à l'interprétation.
Et on recevra toute une partie de l'équipe évidemment lors de sa diffusion. D'ailleurs, on aura les trois comédiens qui seront avec nous, qu'on accueillera lors de la diffusion. Donc franchement, on va passer un super moment. En tout cas,
Jérémy Gillet, qui a eu le prix du meilleur acteur au festival Sérimania en 2024.
Exactement. Et puis on a découvert dans Arrête avec tes mensonges, bouleversant aussi. C'est un comédien incroyable qui est en train d'exploser sur la scène cinématographique et télévisuelle, en tout cas tous. Merci Clémentine d'avoir été avec nous. Hors limite, c'est ce soir sur France 2.
Oui,
j'ai hâte. On ne le rate pas.
Ah oui, s'il vous plaît, oui. On a envie que ça continue, ça c'est... on a besoin des spectateurs.
Et puis on se retrouve l'année prochaine pour le quatrième opus du coup. On va te laisser le tourner entre temps.
Oui, oui, oui. On va retourner dans les hauteurs enneigées.
Bon courage.
Ouais, merci.
À très vite, merci à toi, Hors Limite. On va tout de suite écouter la bande-annonce, c'est parti.
Je suis sûre d'avoir déjà vu la victime quelque part.
J'étais venu voir un ami et on vient de m'apprendre qu'il y a eu un accident.
Ça ressemble plutôt à un meurtre. C'était un accident, rien de plus.
Vous n'aviez pas à intervenir sans mon autorisation. Qu'est-ce que vous voulez en fait, que je vous coffre pour entrave à l'exercice de la justice, c'est ça?
Crime sur les cimes. Laurent Gérard et Hors Limite. Lundi soir à 21h05 sur France 2 et sur la plateforme France.tv.
Allez, notre coup de cœur télé consacré à Père Noël à domicile qui sera diffusé cette semaine sur M6. C'est l'événement, eh bien oui, parce qu'à l'approche de Noël, c'est le premier film sur Noël de M6. On est bien heureux, en tout cas, qu'il soit réalisé par Manu Joukla qui nous rejoint. Bonjour Manu.
Bonjour, bonjour Alain, merci.
Merci d'être avec nous. Alors, deux comédiens extraordinaires qui ont une partition en plus. Très drôle, un habitué de l'émission, Ambroise Michel. Bonjour mon cher Ambroise.
Salut Alain.
Ça va bien?
Ça va et toi?
Oui, ça va bien. Et puis une première, François Burlou qui est avec nous. Bonjour mon cher François.
Bonjour Alain.
Qui joue un patron assez odieux, on va dire, dans ce film. Et alors, d'une, on rit. Ça fait un peu aussi film à sketch en quelque sorte, puisqu'on y retrouve vraiment plusieurs scénettes. On va parler de ton rôle en particulier, Ambroise bien sûr après, tu te doutes. Hein. Mais Manu, comment est venue l'idée déjà?
Et ben, l'idée en fait c'est venu tout simplement, j'ai croisé Shirley Bousquet qui joue dans le film qui m'a dit écoute, M6 cherche une comédie de Noël, est-ce que t'as une idée? Si t'as une idée, je t'ai un rendez-vous dans les deux jours. Et j'ai dit oui, bien sûr. J'avais absolument rien. Je suis rentré chez moi, mais j'avais quand même une idée. Moi, j'avais envie de faire un film à sketch avec une petite carte postale de la société. J'avais envie de me dire tiens, j'aimerais bien parler des complotistes en sketch, j'aimerais bien parler des familles dysfonctionnelles et tout ça. Et je me suis dit, finalement, si je prends l'idée d'un Père Noël, un comédien qui est obligé de se déguiser en Père Noël par son patron, joué par l'excellent François Burlot, je me dis ça peut donner quelque chose d'assez drôle de mettre ça à Noël, parce qu'à Noël, comme je l'ai dit là, c'est vrai que tout se cristallise à Noël et ça permet de faire des choses drôles, mais ça permet aussi de faire des choses tendres. Et j'avais envie de faire un film à sketch avec un fil rouge assez tendre et qui raconte des choses, parce que on est encore une fois dans une société fracturée, on est dans une société où ceux qui bossent des fois à la fin du mois n'arrivent plus à remplir le caddie. Paradoxalement, on n'a jamais autant de milliardaires en France, et je me suis dit le fait de pas pouvoir offrir des cadeaux à son gamin, c'est déjà un drame, mais quand c'est Noël, c'est encore plus dur parce que ça se cristallise. Et je me suis dit, ah là, je crois qu'on a quelque chose qui va parler aux gens et qui va être encore plus fort émotionnellement. Et quand on est plus fort émotionnellement, on rigole encore plus. Donc j'avais envie de ça.
Et à la fois, non seulement il est odieux, mais il nous fait rire aussi, ce patron, parce que plus il est odieux, plus il nous fait rigoler en quelque sorte, François. Parce que, alors, pour situer un peu l'histoire, on a ce livreur qui, en gros, c'est sa dernière chance de garder son travail, c'est de livrer le soir du 24 décembre des cadeaux chez les gens. Et évidemment, rien ne va se passer comme prévu, autrement ça serait pas drôle. Mais tu vas bien le pousser dans ses retranchements quand même, ce livreur, François.
Oui, absolument. Ben moi, j'ai un rôle en or, parce que c'est vraiment le patron tyrannique, un peu à l'idée de Louis de Funès, c'est-à-dire que il est totalement arrogant, il n'a aucun respect pour son employeur, il le met sous pression, il est évidemment très peu content du résultat de ses courses et de la clientèle qui lui crie dessus. Donc c'est vraiment le patron clairement dans l'idée de l'ubérisation, où en fait tout le monde est sous une pression maximum, et lui, il est particulièrement odieux, et donc c'est un régal, parce qu'évidemment il s'énerve pour un rien, il s'agace très fort, et sa femme essaye de le calmer, elle n'y arrive pas, et finalement c'est ce qui fait que c'est drôle, je crois, à l'écran. Et moi, j'adore ce genre de personnage, quand on joue des odieux, des cons, mais vraiment au premier degré, et ben ça en devient ridicule, et donc ça crée du rire, et on en a tous vu d'ailleurs des comme ça. Donc c'était une jolie partition et un joli rôle que m'a proposé Manu.
Le casting est exceptionnel, Manu. Il y a un nombre de comédiens juste totalement hallucinants, et qui ont chacun une petite partition franchement intéressante. On va en recevoir d'ailleurs encore quelques-uns dans un instant. Charlie Bousquet, Louise Monod et Mehdi Sadoun vont nous rejoindre aussi. Mais mon cher Ambroise, toi, tu as une partition intéressante, parce que s'il y a un endroit où on ne t'attendait pas, on peut dire, je crois, que tu as le physique de l'emploi, tu joues un strip-teaser.
Tu trouves que j'ai le physique? Non, c'est rigolo, c'est ce que je disais à Manu, je sens qu'on va en entendre parler. Non,
mais ça va marquer le spectateur, je te le dis.
Non, mais justement, moi, c'est ça que j'aime bien, c'est de pouvoir... et puis il sait, Manu, c'est que... On sait que même si ça va être 2-3 séquences, quelques phrases et tout, on sait qu'il y aura de toute façon quelque chose à défendre. Ouais, et puis il me connaissait là-dessus, c'est quoi qu'il se passe. Enfin, chacun des comédiens, on avait besoin on avait déjà envie d'être là pour lui, parce que c'est quelqu'un qu'on aime, et dans le travail et humainement, mais qu'en même temps on savait que quoi qu'il se passe, il allait nous donner quelque chose à faire. Donc lui, il m'a dit bon, t'es fou et les gens le savent pas, on va te donner un petit rôle de taré, quoi. Et là, maintenant, ils vont le savoir.
Voilà. Et on va découvrir évidemment ça dans le film cette semaine. On va rien raconter, parce qu'on va pas défleurer, évidemment. On peut juste dire qu'on va te voir comme on t'a jamais vu. Voilà. Non mais c'est ça qui est drôle.
Oui. Et puis d'avoir dès que c'est un nouveau personnage, de toute façon, c'est intéressant. Et puis là, c'est vrai que c'était de pouvoir lui. Ouais, sans trop en dire, mais c'est juste d'avoir une part d'inconscience, un gars qui galère, qui est banquier, qui fait ce métier-là pour boucler ses fins de mois. Et c'est juste que je pense que ce personnage aime faire ça aussi. Il est banquier, mais sa part de folie, le soir, la nuit, mais c'est de le montrer aussi sans que ce soit gênant, parce qu'on voulait pas que ce soit un personnage gênant qui mette mal à l'aise les gens. C'était au contraire que finalement ça l'amuse, donc ça amuse les autres, quoi.
Exactement, et c'est ça qui est très drôle. Manu, comment on fait pour fédérer autant de talents, autant de comédiens? Parce que, alors, ce que je disais, il y a un casting, on peut en citer quelques-uns, mais il y a Eric Antoine aussi, qui a une partition très drôle avec Élodie Poux, mais il y en a tout plein, François Berléand, Camille Lelouch, enfin, ils sont tous fous dans ce film.
Oui, mais moi, c'est-à-dire que j'adore fédérer. Moi, je viens d'une troupe à la base qui s'appelait les Nous C'est Nous, avec Jean Dujardin, Salomon, Collado et Eric Massot. Shirley, on a travaillé ensemble dans une troupe qui s'appelait 20 ans dispétante avec avec Florence Foresti, François Burlou qui est là, moi je le connais depuis la bande du Carré Blanc où il y avait Nico Dogs, où il y avait Denis Maréchal, Nicolas Robin, enfin voilà.
Et ça nous rajeunit tout ça.
Ça nous rajeunit, mais moi je suis assez fidèle et moi j'adore travailler avec ces gens parce que déjà je les connais par cœur, je suis fan de leur univers. Ambroise, c'est voilà, on s'est rencontré il y a finalement c'est celui que j'ai rencontré il y a peu, mais on s'est reconnu dans le sens on a le même humour, on a envie de faire des choses, on a la même folie et c'est pour ça que moi mon rêve le plus fou là pour la suite, je sais pas encore ce qu'on va faire, mais c'est tous de les retrouver et qu'ils reviennent. Et je pense que ça sent François Berléand, d'ailleurs il m'a dit qu'il re-signait, mais je sais pas sur quel projet, mais je re-signe. Et donc c'est pour ça que j'adore. Je crois que Monsieur Burlou veut dire quelque chose.
Moi je crois qu'il y a des acteurs français qui vont appeler Manu pour être dans ses fictions, parce que
pour être dans le 2.
Pour être dans le 2 ou pour être dans autre chose, parce que c'est un tel kiff de travailler avec lui que je pense que beaucoup vont voir et vont se dire mais je veux en être, j'en suis certain.
On croise les doigts. De toute façon la porte est ouverte, parce que je suis comédien et comédien toujours, mais moi je suis un fan du jeu et là eux c'est quand même des acteurs incroyables, ils ont du jeu même sur des petits rôles, ils apportent des choses, ils sont source d'invention, source de propositions. François par exemple, François Bellou qui est en face de moi, il vient de la scène humour. C'est quelqu'un qui écrit ses sketchs, c'est quelqu'un qui a toujours des idées. Ambroise c'est un metteur en scène aussi, il est passé à la Réal donc il a plein d'idées et tout ça. Et moi je suis friand de ça parce que c'est vraiment un échange. C'est vraiment un exercice collectif. Je suis content. Pour moi, c'est pas mon film, c'est notre film, quoi. C'est pas.
Sans un collectif, en tout cas.
Il a raison. Il parle de famille, mais vous parliez de théâtre, Alain, et Manu a raison. J'ai l'impression qu'on fait partie d'une troupe et que peut être un peu plus ou un peu moins dans la lumière, mais dès qu'on est sur scène avec lui ou sous ce cirque, sous ce chapiteau qu'est le tournage, tout le monde donne le meilleur. Donc c'est génial.
Peu importe l'importance du rôle, c'est qu'on a envie de faire partie de sa folie.
C'est ça. C'est beau.
C'est beau. Moi, je suis hyper. C'est ma journée là aujourd'hui, parce que là, tous ces compliments. Pour les auditeurs, je suis nu, hein, je me caresse, il faut le savoir.
C'est très radiophonique.
C'est pour ça que j'explique. Vive Noël, vive la magie de Noël. C'est
exactement, Noël. Vive la magie de Noël. Père Noël à domicile, en tout cas, ne ratez pas, c'est Noël avant Noël sur M6. On va en profiter, évidemment. Et puis, on va écouter un petit extrait juste après. On va revenir avec Mehdi Sadoun, avec Louise Mono et avec Charlie Bousquet. Eux aussi ont bien des choses à nous raconter. Et nous, en tout cas, on vous souhaite plein de bonnes choses et on espère, en tout cas. Et on va essayer d'y participer pour qu'il y ait le plus de monde possible pour qu'on vous retrouve dans Père Noël à domicile 2 l'année prochaine.
Merci Alain.
Merci Manu.
Merci beaucoup.
Merci Alain. Merci et joyeuses fêtes à tous.
Le 24 au soir, c'est impossible pour moi.
T'as eu l'impression que je te laissais le choix ?
Son job, c'est livrer des cadeaux, pas les recevoir.
Joyeux Noël !
Bonsoir Papa Noël.
Bon, moi je vous propose de faire les cadeaux vite fait.
Oh, non.
Moi je vous crois. C'est-à-dire ?
Le Père Noël, tout ça existe.
Bon, moi je vais y aller parce que...
Non ! Bougez pas !
Bon, combien je vous dois, docteur ?
Franchement, s'ils sont tous comme ça, je suis pas rentré avant minuit.
La petite surprise. Non mais oh, qu'est-ce que j'ai avec mon pognon ?
Avant de vous entretuer, vous allez déballer vos cadeaux.
Comment il nous parle le Père Noël alcoolo là ?
Au revoir Père Noël.
Oh, ça va.
Commandez un Père Noël à domicile. On vous livre mardi prochain à 21h10 sur M6 et en streaming sur M6+.
Allez, Père Noël à domicile, la suite. On continue à en parler, la fiction diffusée cette semaine sur M6. C'est Noël avant Noël et on a bien de la chance aujourd'hui puisqu'on reçoit toute une partie du casting après Manu, François et Ambroise. C'est Louise Mono, Charlie Bousquet et Mehdi Sadoun qui nous rejoignent. Bonjour à tous les trois.
Bonjour.
Bonjour.
Bonjour Alain.
Merci d'être avec nous tous les trois. On a grand plaisir à vous retrouver pour ce film où non seulement on va beaucoup rire, il y a quelque chose un peu de théâtral, de film à sketch. C'est ce que je disais à Manu qui a su réunir un casting assez dingue autour de toi, Mehdi, et de ton personnage qui va devoir, pour essayer de garder son travail à tout prix, devoir livrer aux grandes dames de son épouse le soir du 24 décembre des colis chez des gens tous aussi frappés les uns que les autres. Et c'est ça qui est drôle, justement.
Frapper, oui, ils peuvent être frappés, tout dépend du point de vue que l'on porte sur ces gens, mais je pense plutôt que c'est plutôt un soupçon de la société. Voilà, on a des personnes complètement différentes qui se trouvent dans ces demeures. Et effectivement, le Père Noël va aller les visiter pour aller leur amener les cadeaux qu'ils ont commandés.
Ne dis pas quand même que les personnages d'Élodie Pou et Eric Antoine ne sont pas frappés, mais c'est de là quand on débarque chez eux. Je t'imagine toi, mais comment tu gardes ton sérieux à ce moment-là ?
Ah bah c'est vrai que si on prend un exemple sur ces personnages, ouais, c'est compliqué. Bah là j'ai pas pu prendre mon sérieux, j'ai pas pu tenir mon sérieux. Les personnages sont dingues, tous dingues. Moi j'ai Louise Mono qui joue ma femme à mes côtés. Et j'ai Charlie Bousquet, une grande actrice qui fait partie des plus grandes scènes de ce film.
C'est une grande scène de repas, c'est vrai, c'est toujours assez compliqué pour un metteur en scène justement. Et puis d'arriver à on va dire, à gérer tous les comédiens qui sont présents à l'écran. Mais toi, t'as une grande scène de repas, justement. Dis-nous-en un tout petit peu plus sur ton personnage sans trop en dévoiler.
Alors oui, effectivement, c'est, les scènes de repas, c'est souvent les scènes les plus compliquées parce que c'est assis des heures et tout ça. Mais il faut reconnaître que, si on peut le rappeler quand même, le casting, c'est quand même mon père, c'est Berléand, mon frère, c'est François-Xavier de Maison, ma belle-sœur Camille Lelouch, mon mec Denis Maréchal, bref, on a une belle famille qui va bien se prendre la tête, ça va tourner en catastrophe, en vinaigre, ça va être...
Surtout quand le père décide de repartir en crise d'ado.
Exactement. Mais là, on dévoile trop de choses.
Ah non, on a juste dit ce qu'il fallait pour que les gens aient envie de regarder Berléand en ado.
Ouais. Et Mehdi arrive dans ce pugilat, cette famille qui est en train de s'entretuer, quasiment.
Ouais, non, c'est très compliqué parce qu'en fait, on arrive au moment. Alors, c'est très compliqué ton interview aussi parce que les gens n'ont pas vu, mais si on raconte.
Ça, faut en dire sans trop en dire.
Voilà, donc moi, je suis confronté à différentes rencontres où on va être touché, où on va être pris dans un cas de figure où les gens vont être énervés, où il va y avoir, on peut dire que des complotistes, il y a des gens seuls. C'est une micro-société que je vais rencontrer.
Et le tout accompagné par Alice Paul, quand même, il faut le dire. T'as quelqu'un qui t'accompagne quand même de grande facture.
Pas oublier Alice Paul qui est mon binôme dans ce film et qui elle me speed pour pas que je sois en retard pour ma femme qui m'attend et qui elle m'a speedé au départ.
Et le personnage de Firmin Richard, il est délicieux à souhait, je ne vous dis que ça, mais vous allez avoir une belle surprise en tout cas avec le personnage de Firmin qui nous fait évidemment beaucoup rire et je peux vous dire qu'il va y avoir du petit punch à volonté, presque.
Oui, c'est une...
On va juste dire ça.
C'est une façon de voir les choses.
Ça va zouker,
ça zouke pas, non, mais on n'est pas loin, effectivement. Et puis elle est très touchante dans ce rôle-là, elle est très très touchante. Tous les personnages sont touchants de toute manière parce que c'est une micro-France, c'est une micro-société vraiment qu'on voit.
Louise, toi tu joues la femme qui attend désespérément que son mari veuille bien venir fêter avec sa famille ce Noël tant attendu, mais va devoir composer aussi avec ses parents qui débarquent.
Oui, visiblement c'est une tradition, les parents viennent chaque année elle l'attend, elle espère que cette année elle ne va pas l'attendre et qu'il sera là.
Qu'est-ce qui t'a plu toi dans le rôle, Louise?
C'est un ensemble, déjà je regarde pas que mon rôle, c'est j'ai aimé l'écriture, j'ai aimé le casting, j'ai aimé la rencontre avec Manu, le réalisateur, puis j'avais raison parce que c'était trop bien sur le tournage.
Vous êtes bien amusé, il y a eu des moments de crise de fou rire, franchement on a l'impression, nous en tout cas en vous regardant à l'écran, que vous êtes beaucoup amusé.
Ah ben c'est un pur bonheur, c'est vrai que même un peu de frustration, on aurait aimé que ça continue un petit plus longtemps, donc oui on était tous contents d'être là. Et...
Finalement c'était très court pour chacun, moi j'avais 5 jours de tournage qui est rien sur un téléfilm, mais on est quand même tous très présents, mais c'est vrai que c'était frustrant, on avait envie que ça dure plus longtemps.
Mehdi, quand t'as vu le montage final, justement avec toutes ces scènes qui se succèdent, tous ces personnages qui se succèdent, qu'est-ce que tu t'es dit ?
J'ai pas été étonné du travail et de la puissance de travail de Manu Choukla. J'ai pas été étonné de la manière dont il a accompagné ses acteurs, parce qu'il a été lui-même acteur. Donc, quand on est acteur et qu'on devient réalisateur, on dirige très bien ses acteurs. J'étais très content de voir ce résultat. J'ai été épaté et je m'attendais vraiment pas à ça. Et je me demande pourquoi il est pas au cinéma.
Alors, parce que à la télé, l'avantage que ça va être gratuit et que plein de monde va pouvoir venir le voir justement, et que vous serez beaucoup plus nombreux devant votre télé. Ça, c'est bien.
C'est vrai, mais je parlais pas du chiffre, je parlais plutôt de la couleur de l'image, parce que c'est vrai que quand on a vu la projection au cinéma, on s'est dit mais c'est vrai que là c'est filmé avec le rythme d'un film cinéma. La couleur est cinématographique. Les acteurs qu'on voit dedans sont des acteurs qu'on a déjà vus au cinéma et qu'on a envie de revoir, et on se dit tiens. Et en fait non, c'est vrai qu'on se rappelle. La télé c'est formidable puisque ça permet de réunir énormément de spectateurs. On les reçoit, on arrive dans leur salon. Ça aurait été un fantasme de l'avoir au cinéma quand même.
Alors c'est vrai que M6 renoue avec le film de Noël, et ça c'est vraiment chouette de pouvoir voir des films de Noël français, parce qu'on a pendant tout le mois de décembre on va en manger du américain, et c'est chouette de voir ça en France. Vous avez été surpris qu'on vous propose ça, un film de Noël, qu'on fasse ça?
Mais en tout cas, j'ai trouvé que c'était une très très bonne idée, parce que effectivement, c'est pas une comédie romantique ou c'est de l'humour, et en même temps, il y a un fond social, ça ouvre beaucoup plus de perspectives.
Ah oui, un vrai fil conducteur.
Ouais, c'est un vrai fil conducteur, c'est un film qui parle aux gens, aux Français, et puis à un moment donné, on a besoin de douceur. Le symbole du Père Noël, c'est quoi? C'est un personnage altruiste qui vient apporter du bonheur aux gens, aux plus démunis, et qui vient apporter de la douceur. D'ailleurs, le mot Noël, je me souviens, j'ai vu dans Wikipédia. Alors no qui veut dire en en gaulois joyeux et elle qui veut dire soleil. Donc joyeux soleil. Voilà. En 400, c'est-à-dire au 5e siècle, les gens lors d'un bel événement criaient Noël, joyeux soleil. Voilà, donc ça vient de là. Et je pense que voilà, ça fait du bien de voir ces films-là. Parce que ça parle aux Français. On voit cette micro-société, les gens vont s'identifier et vont se dire tiens, pour une fois, enfin, pas pour une fois, mais on a quand même un film qui nous parle. C'est bien d'avoir des comédies romantiques, d'avoir tout ça, mais les regarder pour les regarder sans rien ressentir, à un moment donné, on regarde comme des poissons rouges, quoi.
T'es au courant qu'il y a des milliers d'enfants qui vont t'attendre, du coup, après, à partir de la semaine prochaine?
J'assume complètement.
Ok, ils vont avoir vu le film, ils vont attendre Mélissa Douna en Père Noël.
Eh ben, je les attends avec grand plaisir. Ouais.
On va découvrir Père Noël à domicile, en tout cas pour notre plus grand plaisir. On va, voilà, on va rire. Il y a beaucoup de belles choses, en tout cas, dans ce film. Casting est juste incroyable. Voilà, je vous conseille vraiment. Voilà, si vous avez envie de passer une bonne soirée, eh bien, ça va se passer avec le Père Noël à domicile cette semaine sur M6. Merci à tous les trois d'avoir terminé cette spéciale avec nous. On vous embrasse très fort et on vous dit à très vite.
Bonne fête. À très vite. Ouais,
bonne fête. Merci, moi, Alain. À très vite. Bon, je t'embrasse.
Nos coups de cœur télé cette semaine.
Allez, c'est l'événement sur France 2, le retour tant attendu de Fais pas ci, fais pas ça pour un épisode événement exceptionnel qui va nous emmener sur la Lune. Enfin, on va voir, justement. Et un de mes personnages préférés de la série, il est là, Bruno Salomon, alias Denis Boulet. Bonjour Bruno, merci d'être là.
Bonjour Alain. Pourquoi préfère? Parce que tu dis, tu t'identifies un peu à Monsieur Boulet.
Ah, je sais pas, mais je l'adore. Depuis le début, je t'avoue que je suis fan de ce personnage et tu le sais depuis le début. Je me souviens de la première année où vous aviez été primé à Monaco, au festival. On était là pour ce premier prix, la première saison, et on vous a jamais lâché depuis. Et c'est vrai que je pense que ça va faire d'une très plaisir aux téléspectateurs de vous retrouver, mais j'imagine vous vous retrouver, elles ont dû être joyeuses.
Complètement, mais c'est vrai que c'est une aventure qui dure depuis 2007, donc c'est complètement dingue, surtout que on a vu les enfants grandir, c'est une vraie aventure. Puis je vois là, quasiment tout le monde connaît Fais pas ci, fais pas ça, ça a été multi-rediffusé, on m'en parle tout le temps. Ça fait partie du cœur des Français maintenant, c'est chouette, ces deux familles.
Oui, je dirais même culte. Bruno. Non mais c'est incroyable d'être dans une série culte comme ça, parce que c'est culte, Fais pas ci, fais pas ça.
C'est complètement culte. Franchement, je trouve que c'est parce qu'il y a le jackpot, c'est-à-dire que non seulement je trouve que tous les acteurs, à part moi, hein, je parle pas de moi, mais je trouve que tous les acteurs sont vraiment incroyables, que ce soit des enfants comme les adultes. C'est pas juste une série familiale lambda avec des petites scènes. Je trouve qu'elle a du sens dans le côté. C'est-à-dire que c'est deux familles qui ont un mode d'éducation opposé. Et on s'aperçoit qu'en fait, d'un côté, t'as les réacs, de l'autre côté, t'as les bobos. Il y en a qui marchent à la discipline et les autres qui sont plus dans la psychologie, dans les codes de leurs enfants. Et dans les deux cas, ça marche pas. Et je trouve que c'est beau ce que ça dit, parce que finalement, il faut être soi. Parce que il y a eu beaucoup de séries familiales qui ont été faites, et je trouve qu'il n'y a pas cette saveur-là et ce sens-là. Et les personnages sont vraiment, ils sont typés, ils sont un poil caricaturaux, mais pas tant que ça au final.
Oh non, beaucoup de familles pouvaient s'identifier aux familles Boulet ou Le Pic. Hein.
Ouais, complètement. Et voilà, dans les deux cas, ils se perdent dans leurs contradictions, dans leur même dans leur fonctionnement, dans leur morale et tout. C'est ça que j'aime dans cette série. Et là, on part dans un truc complètement dingue. C'est Tintin, quoi, le truc. C'est-à-dire qu'on va sur la Lune. C'est complètement fou. C'est-à-dire que nos enfants.
On pouvait pas attendre moins des Boulet et des Le Pic.
Oui, il fallait ça. Il fallait au moins ça. Parce que s'ils allaient, je ne sais pas, en Picardie, c'est sympa. Mais c'est moins délirant que la Lune. On est d'accord. Donc, je vais pas spoiler le truc. Mais en gros, je veux juste dire que dans cette histoire, ce qui est assez amusant, c'est que ma femme devient complotiste. Donc, Valérie Boulet. Et pense que l'homme n'a jamais été sur la Lune et qu'on nous ment depuis des années.
1969.
Depuis 1969, on nous raconte des histoires et qu'on n'est jamais allé sur la Lune, donc complotiste à mort, et doute quasiment jusqu'au bout.
Et on va embarquer les Le Pic dans cette aventure aussi.
Et on embarque les Le Pic qui, eux, ne doutent pas. Hein. Ils y croient. Ils sont pas complotistes, mais ils ont d'autres failles.
C'est vrai que c'est de plus en plus difficile à vous réunir tous ensemble quand on voit les carrières que vous faites tous. C'est totalement hallucinant l'envolée que tout le monde a pu prendre autour.
Ouais, c'est hallucinant et étonnamment, on nous parle toujours de Fais pas ci, fais pas ça. C'est le truc qui reste, quoi.
Parce qu'on a envie de vous revoir régulièrement. Et puis là, maintenant, ça fait 17 ans que la série a commencé. Vous pourrez pas passer à côté d'un anniversaire des 20 ans. Donc, vous serez obligé d'en faire un autre, de toute façon.
Jusqu'à la mort. Fais pas ci, fais pas ça jusqu'à la mort. Non, mais c'est vrai que c'est tellement une chouette aventure. Et puis ça coule, quoi. Dès qu'on retourne, on prend nos marques, on redevient les personnages.
J'ai l'impression de ne vous être jamais quitté.
Ben, en fait, c'est une sensation de famille qui est assez étonnante. C'est que quand on voit les enfants, quand on voit, d'un seul coup, quand on retrouve les maisons, il n'y a rien à jouer, ça se fait naturellement. C'est très étonnant ce qui se produit.
Il y a eu quelques crises de fou rire, j'imagine, sur le tournage.
Ah oui, il y avait une crise de fou rire, notamment une où Isabelle Génias, on avait des combinaisons, donc on carapatait dans un désert pour faire la lune, évidemment, pour les vrais complotistes. Alors, je vous avoue qu'on n'a pas été vraiment sur la lune. Le budget n'était pas...
Les France Télévisions étaient un peu compliquées à gérer là-dessus.
Donc on avait des sortes de combinaisons avec des casques. Et...
Un petit plat soupe aux choux.
Un petit plat soupe aux choux, ouais. Et à un moment, Isabelle Génias se casse un peu la margoulette et son casque, il bouge. Et moi, je la vois de dos. À ce moment-là, je suis de dos à elle. Et elle s'énerve avec son casque. Putain de casque de merde ! Comme ça. Et moi, je la vois derrière et je vois un Teletubbies qui s'énerve de dos. Et je pars en fou rire et je peux plus m'arrêter. Et vous savez, le fou rire comme à l'école. Et en plus, vous savez, quand vous êtes en tournage, il y a toute une équipe derrière. Là, on est fatigué, on tournait de nuit. C'était des conditions très difficiles parce que c'était lourd, c'était physique et machin, etc. Et donc, ça devenait nerveux et après, c'était mort, quoi. Donc ça, c'est des moments magiques, quoi. Parce que...
Ah bah quand les nerfs lâchent, c'est là qu'il y a les moments les plus savoureux.
Ouais, ouais, complètement. Et c'est le truc, tu peux pas les fabriquer, quoi.
Il y a Père Noël à domicile aussi, pour toi, sur M6.
Père Noël à domicile de mon pote, mon frère, et Emmanuel Jouclin, qui était dans Les Nous, c'est nous, qui réalise, ça fait deux fois qu'il réalise des unitaires pour la télévision, et c'est le mec qui arrive à faire les plus gros castings. Il y avait Florence Foresti, Jean Dujardin, Jérôme Commandeur, et j'en passe. Et là, c'est pareil, il a Mehdi Sadoun, il a tout un paquet de stars dans son film, et là étonnamment ça nous poursuit parce que je fais également un complotiste dedans, et je fais un mec et alors lui il a un gros niveau, hein, bien perché, c'est du complotiste high level. Et il est complètement fou, et Mehdi Sadoun, ça a été un réel plaisir de tourner avec lui. C'est vraiment une crème, ce mec.
Ça, c'est clair. Il y a pas plus gentil aussi. Il est incroyable. Mehdi, on l'embrasse. D'ailleurs, très fort, je sais qu'il nous écoute de temps en temps. Bruno, la scène. Parce qu'on a envie de te revoir aussi sur scène. Et il y a un moment que t'es pas monté en one man.
Ah, en one man, oui. Mais, sur scène, je suis monté, j'ai fait deux pièces. J'en avais fait une avec David Sardou, qui s'appelait Oscalpel, et une autre avec Julie Debona. J'ai fait la tournée. C'était plus théâtre. Et en one man show, effectivement, mon dernier one man show s'est arrêté avec le Covid. Parce qu'il y a eu toute une tournée qui a été annulée et tout. Puis après, j'ai enchaîné le théâtre. Donc, je pouvais pas, être sur deux scènes en même temps. Je n'ai pas encore le don d'ubiquité. Je le travaille, hein, j'essaie. Mais là, je suis sur une autre série pour France Télévisions qui s'appelle A Priori, où je fais une sorte de flic un peu à la Columbo, c'est-à-dire qu'on le prend pour un loser. Et en fait,
c'est le meilleur.
Et en fait, c'est le meilleur, voilà.
Loser, ça rime avec meilleur.
Exactement. Et moi, j'adore ce genre de personnage. Il est sur un fil, on sait jamais s'il est con ou s'il est intelligent, quoi. C'est un peu comme dans la vie, mais on prend souvent pour un con.
Un peu comme Denis Boulet, quoi.
C'est un peu comme Denis Boulet.
Finalement.
C'est un flic boulet, voilà, on va dire ça.
Bon, pour terminer, est-ce que quand vous avez fini ce tournage d'Unitaire, pour Fais pas ci, fais pas ça, est-ce que vous êtes déjà fait quelques promesses de vous retrouver prochainement ?
Ah bah, en fait, on attend à chaque fois la bonne idée. C'est-à-dire que Fais pas ci, fais ça, il y a une règle d'or. On s'est dit dès le départ, il faut qu'il y ait une idée forte, il faut qu'il y ait un scénario fort, sinon on n'y va pas. Parce qu'on veut tellement pas décevoir les gens, on veut que ce soit bien. Et on sait à quel point c'est difficile d'écrire. Et là, c'est Anne Jaffery, qui est la créatrice de la série, qui a écrit cet épisode et qui a eu cette idée géniale de nous embarquer sur la Lune. On pouvait pas rêver mieux. Donc après, d'aller au-delà de la Lune, faut qu'il y ait encore une idée un peu plus folle, quoi. Et je sais pas ce qu'il va y avoir, parce que Mars, bon, ça va faire surfait, du coup.
Il va falloir préparer les 20 ans, hein, les enfants. Hein. Je vous le dis, il va falloir vous mettre au travail. Hein. Bon, en tout cas, on a déjà hâte de vous retrouver pour cet épisode exceptionnel sur France 2. Cette semaine, Fais pas ci, fais pas ça, is back. Denis Boulet is back. Les Le Pic is back. Bref, tout le monde revient pour notre plus grand plaisir. Et je sens qu'on va bien rigoler. Il y a une bonne soirée qui nous attend en perspective. Merci, mon cher Bruno.
Merci, Alain. Je pense qu'on va bien rigoler, ouais.
À bientôt.
Ouais, toi aussi, tu rigoles déjà, tu vois.
Ah ouais, rien que de te voir.
Je te remercie. Je sais pas comment je dois le prendre, mais je le prends bien.
Bien.
Alors, si on a voulu vous voir aujourd'hui, c'est parce qu'on s'est rendu compte que on vous avait un peu laissé tomber dernièrement.
Ah bon ? Et donc, pour vous remercier et vous prouver qu'on vous aime toujours,
On vous fait un beau cadeau.
Ah bon ?
Quelque chose d'exceptionnel qui va vous marquer à vie.
Qu'est-ce que ça peut bien être ?
Ah, c'est à nous de deviner ?
Ouais.
Ouais, essaye.
Oh, je sais ! C'est un voyage !
Félicitations, vous avez été présélectionné parmi 10 000 207 présélectionnés pour le prix
de la Lune.
Voyage français et citoyen en direction de la Lune, ESA.
Qu'est-ce que ça est ?
Je comprends pas.
Si, voilà. Ah ouais, oh, c'est génial. Merci.
C'est qu'est-ce génial. Que c'est
tu sais, c'est un genre de, comment ça s'appelle, un escape game, là. Tu sais.
Ah, oui.
Ah non, les trucs de réalité virtuelle. Oui. On a vraiment l'impression d'être sur la Lune.
Ouais. Oui. Ah bah, toi, ça va pas te changer. T'es toute ta vie sur la Lune.
Merci, la Lune. Les enfants.
Allez, ne bougez pas dans un instant. Guillaume Niclou nous rejoint. On parle de Sarah Bernhardt, la divine, qui sort mercredi au cinéma. À tout de suite.
Bouge pas. Bouge pas. Chut, on écoute la télé. Reviens dans un instant. À tout de suite. Chut, on écoute la télé. C'est aussi en live sur onécoutelatélé.com et sur la page Facebook. Chut, on écoute la télé.
On dansera toute la nuit, on s'aimera sous les étoiles, un peu comme des enfants. On chantera la vida, on dansera sous la pluie, on s'aimera sous les étoiles, on restera des enfants.
Allez viens, je t'emmène au vent, à la poursuite du soleil, fuyons tant qu'il est temps. Allez viens, découvrir la vie, goûter à la bohème et savourer l'ennui. Et dans les rires, dans la joie, on se dira tout bas, c'est ça la vie,
c'est ça la vie,
c'est ça la vie. Se nourrir de paysages, sourire sur les visages, c'est ça la vie,
c'est ça la vie,
c'est ça la vie. On chantera la vida, on dansera toute la nuit, on s'aimera sous les étoiles, un peu comme des enfants. On chantera la vida, on dansera sous la pluie, on s'aimera sous les étoiles, on restera des enfants.
À la vida, à la vida.
Loin du bruit des sirènes, tu vas carrément tes dents. Allez viens, oublie tes soucis, tes ennuis, tes chagrins, on leur dira tant pis. Et dans les rires, dans la joie, on se dira tout bas, c'est ça la vie,
c'est ça la vie,
c'est ça la vie. Se nourrir de paysages, sourire sur les visages, c'est ça la vie,
c'est ça la vie,
c'est ça la vie. On chantera la vida, on dansera toute la nuit, on s'aimera sous les étoiles, un peu comme des enfants. On chantera la vida, on dansera sous la pluie, on s'aimera sous les étoiles, on restera des enfants.
À la vie, à la vida.
Pour se sentir libre, on chantera la vida, on dansera toute la nuit, on s'aimera sous les étoiles, un peu comme des enfants. On chantera la vida, on dansera sous la pluie, on s'aimera sous les étoiles, on restera des enfants.
À la vie, à la vida.
Les bonus audio et vidéo de votre émission sur onécoutelatélé.com, sur notre chaîne YouTube et notre page Facebook. Chut, on écoute la télé. Chut, on écoute la télé, le talk show radio. Le coup de cœur ciné de la semaine.
Allez, notre coup de cœur ciné est consacré à Sarah Bernhardt, la divine, qui sort mercredi dans les salles, le nouveau film de Guillaume Niclou, à qui on doit déjà la petite, avec Fabrice Lucchini. C'était l'année dernière dont on vous avait parlé. Et il est avec nous aujourd'hui, Guillaume. Bonjour.
Bonjour.
À quelques jours de Noël, on va découvrir ce destin, cette femme incroyable qu'était Sarah Bernhardt, cette actrice du début du XXe siècle. Et on va découvrir plusieurs pans de sa vie, hein, finalement, dans ce film.
Oui, oui, oui. Il y a eu un choix délibéré lorsqu'on s'est plongé dans l'écriture, notamment la scénariste Nathalie Letrot, à la suite de cette année de documentation où elle a pu rassembler tout ce qui était disponible, de choisir en fait d'axer le récit sur deux périodes très importantes de sa vie, qui sont le jour de son amputation et la journée que lui a consacrée ses amis. Finalement, pour prendre le contre-pied du biopic traditionnel, ou qui se voudrait un panorama très, très large de la vie d'une personnalité, où on la découvre de la naissance jusqu'à sa mort, non, là c'était plutôt de s'intéresser à la loupe sur deux périodes très précises de sa vie pour livrer un coup de projecteur très large sur ces quelques jours dans lesquels le personnage a la possibilité de livrer finalement une palette très très ample de son caractère. Et là notamment, Sarah Bernhardt était très riche dans ce domaine puisqu'elle avait la capacité de passer dans la même journée d'un état de pure comédie à une colère dévastatrice. Donc c'était vraiment un choix délibéré de l'entourer également de tous ses amis, de ses élans passionnels, que ce soit amoureux ou amical, pour livrer comme un portrait jeté au fusain de façon à être le plus vivant possible la concernant.
Oui, vivante, je crois que c'est le mot qui vraiment la représente bien, un peu collectionneuse d'hommes, féministe peut-être avant l'heure aussi. C'était une actrice mondialement connue, peut-être l'actrice française la plus mondialement connue à cette période-là et encore. Et quand j'entends dans le film certains des personnages, alors je pense à Cyrano de Bergerac et qu'on voit aujourd'hui ce qui est devenu à pièce, qui fait partie intégrante du patrimoine littéraire ou théâtral français. C'est dingue, toutes ces petites piqûres de rappel qui nous font dire que des fois il y a des petites choses qui partent à rien comme ça et qui deviennent des grandes choses.
Oui, oui, c'était très très passionnant de voir à quel point cette femme a traversé le siècle fin 19e, début 20e en côtoyant tous ces artistes et puis à quel point elle a marqué également. Elle a marqué pas simplement par ses autres qualités artistiques, elle était également sculpteur, mais elle a pu aussi marquer la façon dont elle interprétait les rôles. C'est-à-dire qu'elle était une très très grande tragédienne, ça a été la première actrice à jouer des rôles d'hommes, ça a été, comme vous l'avez dit, la première star mondiale, c'est elle qui a inventé le principe de l'autographe, c'était finalement la première influenceuse de son temps, donc elle a eu cette importance capitale de promouvoir son art et de se mettre en valeur également. C'est-à-dire que c'était une communion assez étonnante à l'époque, puisqu'elle était connue dans le monde entier, vous l'avez dit, mais elle était capable de déplacer des foules qui venaient la voir, que ce soit en Amérique du Sud, en Australie, alors que les gens ne comprenaient absolument pas un mot de français. Donc elle était capable d'installer un jeu, de montrer au public qu'on pouvait éprouver des émotions par la captation de la façon dont on jouait, non pas dans ce qui était dit forcément. Et là, c'était sans rentrer trop dans le détail, elle avait une façon finalement de s'accaparer un rôle où elle se plongeait corps et âme en fait dans son personnage. La grande particularité de Sarah Bernhardt, c'est qu'elle était très très appréciée pour la façon dont elle mourait sur scène, parce qu'on avait l'impression qu'elle y laissait son corps tout entier.
Oui, d'ailleurs, c'est, je ne sais pas si cette phrase elle a été documentée, vous l'avez trouvée, effectivement, qu'elle l'a vraiment dite, mais quand on l'entend dans le film, quand elle va se préparer à un rôle et qu'elle veut faire le ménage un peu autour d'elle et qu'elle dit « laissez-moi parce que je me quitte ». Ça m'a fait énormément rire parce que c'est vrai que le comédien, c'est une comédienne qui rentrait vraiment complètement dans son personnage et qui s'abandonnait totalement finalement.
Oui, oui, le « il faut que je me quitte », il est très juste là concernant.
Ah, ça m'a fait mais vraiment rire, et puis c'est à la fois tellement bien placé.
Oui, 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 oui. Oh, mais elle a plusieurs saillies verbales comme ça qui figurent dans le film, et d'autres qu'on n'a pas pu mettre, parce que au départ, Nathalie avait écrit un scénario qui faisait 200 pages, donc vous imaginez bien qu'en termes d'anecdotes, de rencontres, d'événements, on était bien au-delà de ce que le film propose, oui.
Sarah Bernhardt, la divine, c'est mercredi au cinéma. Guillaume Nicloux est avec nous, le réalisateur. On va parler du choix de Sandrine, évidemment, dans un instant. Mais tout d'abord, on va écouter la bande-annonce.
J'ai interprété 112 rôles. J'ai lutté comme personne.
Le nombre de télégrammes que vous avez reçus.
L'empereur du Brésil.
Oui, oh. Oscar Wilde.
Je t'aime, ça. Je comprends pas pourquoi on s'est jamais marié.
Je te vois pas attendre 2 ans que je rentre de tournée.
Alors jouez avec votre âme, mon Dieu. Et croyez-y si vous voulez qu'on y croit. Même dans les coins les plus reculés, les gens connaîtront mon nom. Je veux de la lumière. De la lumière, mon Dieu.
Voilà, Sarah Bernhardt, la divine, allez justement montrer le film aussi à vos jeunes qui découvrent peut-être cette grande actrice du début du XXe siècle qui a vécu moult turpitudes, on va dire, et une vie et un destin absolument incroyable. Sandrine Kiberlain s'est imposée tout de suite pour le choix justement de cette incarnation?
Oui, je dirais qu'elle s'est inscrite presque naturellement. Très très vite, Nathalie a mesuré la grande richesse finalement de jeu qu'il fallait pour interpréter Sarah Bernhardt, et Sandrine est apparue très très vite. On n'a pas eu à chercher en fait, parce que c'est une actrice qui est capable en effet de déployer à la fois beaucoup d'énergie pour jouer la vivacité, les élans de comédie, et qui a beaucoup d'intériorité également pour imposer une émotion durable et extrêmement sensible. Donc elle dispose d'une palette très très large de jeux, et ça c'est très très agréable quand on sait qu'elle va devoir déployer l'éventail et qu'elle se réjouit également de le faire. C'est ça aussi qui est très jubilatoire, c'est d'avoir cette envie commune d'explorer en même temps et puis d'inventer au moment où on fabrique la chose.
C'est vrai qu'elles ont beaucoup de points communs finalement. Sandrine est une actrice justement très dense dans son jeu, qui sait tout faire aujourd'hui, hein, du drame à la comédie romantique, à la comédie tout court d'ailleurs aussi. Et c'est vrai que ce choix-là, en tout cas, on a l'impression que ces deux femmes ont tellement de points communs finalement quand on voit l'incarner, quoi.
Bah, elle serait contente de vous entendre, hein, mais après c'est tout le travail de l'interprétation, c'est-à-dire de quelle façon une actrice se nourrit d'un personnage pour livrer une part d'elle-même aussi. C'est ce trouble qui est très intéressant. Et Sarah Bernhardt permet beaucoup, beaucoup de choses. Avec l'aide des costumes, avec l'aide des décors, parce qu'il faut pouvoir se mouvoir à l'intérieur de son costume, qui lui-même est à l'intérieur du décor, par le regard de la mise en scène. Donc c'est très, très excitant, en effet, d'être sur un film... auto-centré finalement, où le personnage principal est l'unique moteur du film, et qu'autour de lui toute une batterie de satellites viennent nourrir ce personnage, entretenir et montrer à quel point elle était entière, à quel point elle était investie dans ses relations, à quel point elle aimait passionnément, elle se mettait en colère également passionnément et s'engageait également pour des causes passionnément.
Même si elle collectionnait un peu les amants, on a l'impression, en tout cas, quand on voit le film, que le grand amour de sa vie, ça restera Lucien, à jamais, joué par Laurent Lafitte.
Oui, les amants et les amantes, c'est-à-dire qu'elle avait une relation extrêmement libre dans sa vie et qu'elle était sous l'emprise de son désir. Et ça, c'était très rare à l'époque d'assumer ce principe, c'est-à-dire de pouvoir avoir un enfant sans mari. Voilà.
Ça paraît tellement normal en 2024, mais c'est vrai que voilà, il y a 130 ans.
Oui, à cette époque-là, c'était très compliqué de s'accorder ces libertés qui étaient quand même soumises au régime patriarcal, et l'hégémonie masculine dictait beaucoup de la vie féminine, donc c'était très compliqué. Alors évidemment, sa situation sociale et financière lui permettait d'asseoir son désir, mais malgré ça, il fallait oser pour assumer tous ses choix.
Belle liberté. Ce qui m'a frappé aussi, Guillaume, c'est que dans notre inconscient collectif, à tous ceux qui sont nés dans les années 70, 60, 70, 80, on a entendu parler de personnages, mais que nous, on n'a jamais vu vivre. Je parle d'Émile Zola, de Edmond Rostand, de Sacha Guitry. C'est des personnages aujourd'hui qui sont dans notre inconscient collectif, et que là, auxquels vous avez donné vie, qui gravitent autour du personnage de Sarah Bernhardt aussi, qui nous paraissent, nous, beaucoup plus loin dans l'histoire, et qui finalement sont tellement plus proches.
Oui, c'est finalement des images sur un fantasme, c'est-à-dire que c'est ce qu'offre la littérature souvent. C'est la littérature ne vous impose pas d'image, c'est vous qui la fabriquez. Le cinéma, c'est l'inverse, on vous impose une vision. Donc moi, j'ai essayé d'imposer la mienne, le scénariste a imposé la sienne, Sandrine a imposé la sienne, et on vous livre, vous spectateurs, la mixité de tous ces désirs réunis, en espérant que le vôtre va venir nourrir celui-ci. C'est l'aboutissement. Le spectateur est l'aboutissement de tous ces désirs réunis. Donc on ne souhaite qu'une chose, c'est que vous participiez également à la même réjouissance qu'on a eue, à le faire et à faire vivre cette héroïne.
En tout cas, c'est magnifique à voir si vous voulez découvrir ce destin hors du commun. Sarah Bernhardt, la divine, ça sort mercredi dans les salles. Guillaume, merci en tout cas d'avoir été avec nous. Est-ce qu'on continue sur ce rythme-là? Après la petite, Sarah Bernhardt, il y a quasiment eu un an d'écart entre la sortie des deux, même si la petite, là je crois qu'il y a eu du délai entre le tournage et la sortie, mais est-ce qu'on prépare déjà la suite? Est-ce que vous avez déjà un nouveau film qui nous attend pour peut-être 2025-2026?
Oui, il y en aura un. Oui, il y en aura un, mais pour l'instant, j'en parle pas trop.
Ça sera l'occasion de revenir.
Oui, avec plaisir.
Merci beaucoup, Guillaume.
Merci à vous.
On vous reproche, c'est d'être une mère sans époux et d'être l'apôtre de l'amour libre.
Sans doute.
Je devrais te haïr. J'étais lâche, faible. C'est terminé.
T'as pas le droit.
Leur mission, c'est d'être mère de famille.
Eh bien non, c'est d'abord de vivre libre. Allez, tout le monde à la maison!
Mémoire de Sarah Bernard, la plus grande star du monde.
C'est peut-être un peu prétentieux.
Ça, c'est bien la divine, parce qu'en plus, c'est original.
Lundi prochain, dans Chute, on écoute la télé.
Et lundi prochain, dans Chute, on écoute la télé, nous fêterons Noël avec notamment notre coup de cœur ciné consacré à Mon Inséparable et puis à Planète B également. Nous recevrons Jimmy Jean-Louis, l'un des acteurs emblématiques de la série Rose, pour la sortie de son livre, et Bénédicte Delmas, l'inoubliable Laure Olivier de Sous le Soleil, qui viendra nous parler de Jeanne, la rebelle de Dieu, des coups de cœur cinéma, des idées cadeaux de Noël. C'est ce qui vous attend lundi prochain dans Chute, on écoute la télé.
Le rendez-vous des stars. C'est Chute, on écoute la télé, votre talk show radio.
Allez, je vous invite à rester connecté avec nous. N'oubliez pas que vous avez également le podcast de la quotidienne tous les jours à midi sur notre site onécoutelatélé.com et que chaque lundi à 20h, on vous donne rendez-vous évidemment pour le podcast de l'hebdo de Chute, on écoute la télé. Vous pouvez rester également connecté avec nous tout au long de la semaine sur notre page Facebook Chute, on écoute la télé et télécharger également nos applications pour iPhone et Android. Chute, on écoute la télé. Je vous remercie d'avoir suivi cette émission. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast de Chute, on écoute la télé, l'hebdo. À lundi prochain, 20h.
Chute, on écoute la télé avec Langélis, votre maître artisan glacier en Nouvelle-Aquitaine. Des glaces sans ajout d'arômes, sans colorants, sans conservateurs. Découvrez les sorbets, crèmes glacées, cônes artisanaux et la nouvelle gamme de peaux gourmands Jade et Ali, disponible dans vos rayons en grande surface. Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop salé, trop sucré. Et retrouvez les boutiques, les ateliers de Langélis à Pontaillac, La Rochelle, La Cotinière et Bordeaux. Chut, on écoute la télé avec vos boutiques de prêt-à-porter Speak en Nouvelle-Aquitaine. Speak, c'est la mode homme, femme, des pépites chaque semaine pour tous les budgets. Mais Speak, c'est aussi un corner seconde vie pour les vêtements que vous ne portez plus. Alors n'hésitez pas. Plus de 15 boutiques Speak vous attendent en Nouvelle-Aquitaine. Retrouvez toutes les adresses et la boutique en ligne sur speak.fr.